Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, entre 12h et 13h après, Biblas OS, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On parle de l'actualité, donc de tous les domaines scientifiques. Et c'est un petit peu le but de cette émission aujourd'hui. On va parler de plein de sujets et on va un petit peu feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique pour se tenir informé de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Les laboratoires qui communiquent, bien sûr, on se base sur des articles de presse qu'on retrouve dans différents sites internet. Il y a le site de Futura Science qui est vraiment un site très bien fait parce que c'est vraiment vulgarisé à la portée de tout le monde et ça parle vraiment de tous les sujets scientifiques et Science et Avenir également et ce qu'on trouve un petit peu partout dans les différentes revues de vulgarisation scientifique. Biotine tous les samedis sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, dans l'Oise et dans la Somme et graphite.net bien sûr pour le site internet si vous nous suivez en direct ou en différé grâce à la récupération de tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour ce 25 mars. On va faire un petit peu l'éphéméride du 25 mars. En 1989, c'est la première double greffe médicale d'un cœur et d'un pancréas. C'est réalisé aux États-Unis en 1989. C'est assez bluffant quand même comme prouesse médicale, bien sûr. Naissance le 25 mars 1807 de Dominique Alexandre Gaudron. Alors, on est au 19e siècle et on est encore sur des scientifiques qui touchent un peu à tout. Parce que Dominique Alexandre Gaudron, il est médecin, botaniste, géologue, archéologue, spéléologue et il a écrit 140 publications qui traitent de médecine, de botanique, de géologie, de spéléologie. Parmi elles, il a écrit notamment la zoologie de la Lorraine, publié en 1863, et elle est encore souvent citée, même si le nom de Dominique Alexandre Gaudron n'est pas nécessairement le nom d'un personnage scientifique que l'on connaît, sauf peut-être en Lorraine d'ailleurs, si vous êtes lorrain, peut-être que vous connaissez ce nom. Et il a établi les fondements de la génétique et de l'hybridation, et cela 3 ans avant Georges Mendel. Alors bien sûr, Mendel, on connaît un petit peu plus pour ceux qui ont fait de la génétique. Mais lui, donc Gaudron, il avait des expériences de croisement et il a un peu établi les fondements de la génétique et de l'hybridation à ce moment-là. Il a laissé son nom quand même à divers végétaux, dont notamment l'œillet de Gaudron. Donc peut-être que vous recevrez un jour un bouquet d'œillets de Gaudron et ça sera en hommage donc à Dominique Alexandre Gaudron qui est né un 25 mars 1807 en Moselle. Décès le 25 mars 1886 de Samuel Ward Francis, médecin, inventeur, physicien. Il était également écrivain, il était américain. Et dans son père, dans son cabinet médical, il assume en plus une place de pharmacien également. Et notamment pour les maladies de peau, les maladies liées à la tête ou à l'abdomen. Et il travaille également à de nouvelles inventions, notamment un cercueil à ouverture automatique avec un système d'alarme télégraphique. Je trouve ça génial. En 1874, il invente une fourchette cuillère hybride très design. Et en 1863, une machine à oblitérer les timbres-poste. 1863, quand même, déjà l'oblitération des timbres-poste. Et également une machine à coudre en 1875, Samuel Ward Francis, américain, qui a touché un petit peu à tout, comme vous le voyez, donc décédé le 25 mars 1886. Et oui, c'est des scientifiques des siècles précédents, mais c'est toujours intéressant dans le cadre de cette éphéméride de leur rendre hommage et de se dire voilà, effectivement, là on va parler de l'actualité de ce 21e siècle, de ce qui se passe en 2023, mais grâce à l'éphéméride toutes les semaines, on voit un petit peu où on en était dans les découvertes scientifiques au 16e, 17e, 18e, 19e siècle bien sûr, et donc ça nous permet un petit peu de d'avoir une représentation de l'échelle de temps, quelque part, sur des choses qui ont été découvertes il y a quand même assez longtemps pour certains. Je suis en train de chercher le nom de ce jeu, je crois que c'est Timeline, il me semble, où on doit remettre dans l'ordre chronologique des découvertes scientifiques ou des inventions qui touchent notre vie quotidienne. Et bien, du coup, voilà, avec cet éphéméride, ça permet un petit peu de situer la création de cette fourchette cuillère hybride par Ward Francis. Pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Alors, pas mal de choses au niveau de l'actualité scientifique sur plein de sujets. Alors là, il n'y a aucune thématique précise. Ça va être vraiment au fur et à mesure. J'ai pas mal d'articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer avec vous. Et je voulais parler notamment de ce qui se passe au niveau des Alpes. Alors ok, on est au mois de mars, mais c'est un article qui est paru plutôt en février dans le site Futura, qui parle des Alpes et notamment du fait qu'il n'y a jamais eu aussi peu de neige dans les Alpes depuis 600 ans. Alors bien sûr, c'est bien les Alpes pour skier, hein, la région elle est bien sûr une destination touristique, mais les zones montagneuses qui sont couvertes de neige, elles apparaissent également essentielles aux animaux pour la recherche et la mise en cache de nourriture, ainsi que pour la nidification et donc la perte d'habitat enneigé. À cause du réchauffement climatique, eh bien, ça a déjà entraîné une diminution de la croissance démographique de certains animaux de montagne. Il y a des grenouilles, des rongeurs ou des petits carnivores qui sont concernés. Et de manière plus globale encore, les zones enneigées fournissent une précieuse électricité renouvelable et jusqu'à 90% de l'eau douce également qui sont fournies, notamment pour les plaines européennes. Alors, elles sont aussi réputées, ces zones enneigées, pour aider à soulager les régions de montagne et pour leur sol également les soulager du stress hydrique. Mais aujourd'hui, il y a des chercheurs de l'université de Padoue en Italie qui publient de bien mauvaises nouvelles à ce sujet. Il y a une étude qui a été menée et qui permet en fait de calculer la durée de la couverture de neige dans la région des Alpes, notamment du côté de l'Italie. On se rend compte que cette durée de couverture de neige est en baisse, une baisse qualifiée de sans précédent, puisqu'elle est désormais de 36 jours inférieure à la moyenne des 600 dernières années, une baisse du nombre de jours d'enneigement de 5% par décennie depuis 1971, et alors qu'il y a d'autres études qui avaient déjà conclu à une baisse de la couverture neigeuse, eh bien celle-ci corrobore un petit peu ce qui a déjà été à la fois constaté, mais également donc déjà étudié. Et on se rend compte donc d'une baisse de ce nombre de jours d'enseignement qui peut aller jusqu'à une baisse de 8% par décennie sur la même période. Alors, les chercheurs notent tout de même que si la validité de leurs résultats semble acquise pour la région étudiée, donc au niveau des Alpes italiennes, elle reste pour l'heure difficile à généraliser à l'ensemble de la chaîne des Alpes. Il souligne néanmoins, quoi qu'il en soit, le besoin urgent, bien sûr, de développer des stratégies d'adaptation au réchauffement climatique anthropique pour certains des secteurs environnementaux et socio-économiques les plus sensibles de cette région. Mais donc, du coup, voilà, il n'y a jamais eu aussi peu de neige dans les Alpes depuis 600 ans. C'est encore un constat, s'il fallait encore en avoir un, de l'impact du réchauffement climatique qui s'accélère, bien évidemment. Au niveau médecine et au niveau société, et ça c'est un article qui revient un petit peu sur un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a quelques années, c'est l'apparition bien sûr des cigarettes électroniques, les fameuses vapoteuses, et un article supplémentaire qui confirme que ces vapoteuses font autant de dégâts dans l'ADN que les cigarettes classiques. Pour la première fois, nous avons montré que plus les fumeurs utilisaient les cigarettes électroniques, plus longtemps ils les utilisaient, plus les cellules de la bouche subissaient des dommages à l'ADN. C'est ce qu'a déclaré Ahmad Besaratinia, qui est professeur de recherche en sciences de la population et de la santé publique à l'Université de médecine de Californie, et qui a donc publié une étude qui montre justement que parmi les personnes qui vapotent exclusivement, eh bien la fréquence de consommation et l'utilisation de certains dispositifs et de certains arômes également sont associés aux niveaux les plus élevés de dommages à l'ADN. Donc c'est assez important et assez conséquent, bien sûr. Les chercheurs ont recruté 72 personnes considérées en bonne santé et les ont réparties en trois groupes. Ceux qui n'ont jamais fumé de cigarette mais qui sont des vapoteurs actuels, ceux qui sont des fumeurs de cigarettes actuelles mais qui n'ont jamais vapoté, et les personnes qui n'ont jamais fumé de cigarette ni utilisé de vapoteuse. Donc on a ces trois groupes. Et il y a eu des données qui ont été recueillies. La fréquence, la durée du tabagisme, l'utilisation des cigarettes électroniques. Et également, on a recueilli un échantillon de cellules épithéliales de la bouche de chaque participant. Et les chercheurs ont ensuite testé les dommages causés à des gènes connus pour indiquer une agression du génome. Et résultat, on constate que les dommages causés à l'ADN sont aussi élevés chez les fumeurs que chez les vapoteurs. C'est ça qui est quand même assez important, parce que on avait comme message lors de l'apparition des cigarettes électroniques que c'était mieux. Et en fait, on a de plus en plus d'articles qui nous disent que c'est pareil, en fait, que l'utilisation de la cigarette classique. Les vapoteurs qui utilisaient des dosettes présentaient les niveaux les plus élevés de dommages à l'ADN. Et en ce qui concerne les arômes, eh bien, les vapoteuses à saveur sucrée étaient liées aux niveaux les plus élevés de dommages, suivies des vapoteuses à saveur de menthe et de fruits. Il se trouve que ces produits sont parmi les plus populaires parmi les adolescents, et c'est ça qui est inquiétant. Un rapport annuel de l'Agence américaine de santé sanitaire estime que les vapoteuses aromatisées sont consommées par environ 85% des adolescents qui fument, donc c'est quand même assez conséquent. L'équipe de recherche prévoit maintenant de reproduire ces résultats dans un groupe plus important de participants et d'étudier d'autres effets biologiques qui résultent des liaisons de l'ADN. Mais voilà, on est quand même sur une idée de plus en plus fausse qui était à l'époque que les cigarettes électroniques étaient une alternative saine aux cigarettes. C'est de moins en moins le cas. Et c'est pas le premier article qu'on évoque dans cette émission. On a déjà abordé ce sujet sous différents angles, hein, avec l'utilisation des différents solvants utilisés, la fréquence d'utilisation. Et on se rend compte que finalement, on n'est pas dans une alternative beaucoup plus saine. On est dans une alternative à peu près similaire, en fait, par rapport à l'utilisation des cigarettes classiques. C'est un petit peu ce qui est évoqué dans cet article qui est paru il y a quelques semaines. Voilà, Biotine, un peu d'émission, enfin un peu une émission d'actualité scientifique, mais avec un peu de musique, bien sûr. On écoute Anna B. Savage sur l'antenne de Graphite, et puis on se retrouve juste après, bien sûr.
Everyone
Voilà, c'était Annabelle Sauvage avec Viz Dreams pardon, sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Et puis pour la rediffusion tous les mardis matins à 10h, vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Alors, on parle d'un sujet, on passe d'un sujet à l'autre hein, dans cette émission aujourd'hui. Là, on va parler du jus de betterave. Le jus de betterave qui est bien connu des sportifs parce qu'il accroît les performances en augmentant la force musculaire. Il serait particulièrement bénéfique lorsqu'il est consommé juste avant l'effort et dans les jours qui précèdent une compétition, par exemple. Mais pourquoi et comment ? Eh bien, c'est ce qu'une équipe de chercheurs britanniques a tenté d'élucider. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Acta Physiologica. Et on en sait un petit peu plus sur cette betterave qui contient une forte quantité d'ions nitrates. Les auteurs supposent que c'est grâce à eux que la betterave détient son pouvoir de booster les performances sportives. Et pour vérifier cette hypothèse, il y a des volontaires sains qui ont absorbé une dose de nitrate de potassium correspondant à 1 kg de betterave sous forme de boisson. Les ions étaient marqués par un isotope radioactif. En fait, on voulait suivre dans l'organisme ces fameux ions nitrates. Et on a eu un groupe témoin dans l'expérience qui a ingéré un liquide qui est lui dépourvu de nitrate. C'était avoir un groupe témoin et avoir ce groupe qui a bu cette solution avec un isotope radioactif pour pouvoir un petit peu suivre dans le corps où sont fixés ces ions. Et on a ensuite réalisé des biopsies musculaires au début de l'expérience, au bout d'une heure et au bout de 3 heures après l'ingestion du liquide et également immédiatement après un exercice physique intense. On a également récupéré des prélèvements de plasma, de salive et d'urine. Et donc, dans le groupe de départ, hein, celui qui avait donc eu ces ions nitrates marqués, on s'est rendu compte qu'ils étaient fixés principalement dans la salive, dans le sang et dans les muscles squelettiques. La concentration était fortement augmentée entre le début de l'expérience, 1 heure et 3 heures après. Et lorsque les volontaires exerçaient un exercice physique intense, eh bien les muscles qui étaient mobilisés dans l'effort voyaient leur concentration avec ces ions nitrates chuter, tandis que les autres ions qui étaient présents déjà et qui n'étaient pas marqués, eux n'ont pas modifié. Donc lors de l'exercice, la force de contraction musculaire était supérieure d'environ 7% dans le groupe traité, comparé au groupe qui, lui, n'avait pas eu cette solution à base de betterave. Ce qui était plus intéressant encore, c'est que la force musculaire décroissait au fur et à mesure que les ions nitrates étaient consommés. Et les auteurs ont donc montré que ces fameux ions nitrates présents dans la betterave, qui étaient donc apportés au niveau de ce jus de betterave, ces ions ont la capacité de se rendre disponibles dans les muscles squelettiques. Sur place, ils se transforment a priori en oxyde nitrique qui favorise la vasodilatation des vaisseaux, donc l'oxygénation des tissus et donc des muscles. Et il y a donc des capacités de contraction des muscles squelettiques plus importante. Il existe également d'autres aliments riches en nitrates, le radis, la laitue, la roquette, les épinards. C'est bon à savoir, donc, si on veut un petit peu doper ses performances sportives et varier aussi, au passage, son alimentation. Les scientifiques expliquent justement comment ce jus de betterave peut doper la performance sportive et c'est la présence de ces ions nitrates qui ont un fort impact apparemment dans l'exercice musculaire qui est proposé. C'est assez intéressant parce que finalement, je crois que c'est la première fois qu'on évoque ce sujet-là à l'antenne, l'utilisation du jus de betterave pour être beaucoup plus performant. C'est bon à savoir. Toujours en médecine, on constate, notamment dans les pays occidentaux, qu'il y aurait entre 3 et 5% de la population adulte qui souffrirait de constipation chronique. Si on prend en compte aussi la constipation occasionnelle, eh bien cela peut aller jusqu'à à peu près un tiers de la population. Alors, la constipation, comment on la définit ? C'est par un nombre de selles inférieur à 3 par semaine, ou alors des selles plutôt dures, ou par une nécessité d'effectuer un effort important pour pour pouvoir les émettre. Et à partir de 55 ans, les individus ont 5 fois plus de risques de souffrir de constipation, qu'elle soit chronique ou occasionnelle, par rapport aux adultes jeunes. Et donc, pour diagnostiquer les pathologies du tube digestif dont la constipation peut être un symptôme, les gastro-entérologues sont obligés de réaliser des examens qu'on va appeler invasifs, donc notamment la coloscopie. Et ce n'est pas toujours nécessairement agréable, on va dire. Il y a une équipe de chercheurs qui a eu une idée plutôt ingénieuse. C'était de fabriquer un robot miniature qu'on pourrait avaler et qui pourrait ainsi explorer le tube digestif. C'est très sérieux. Ça a été publié dans la revue Nature Electronics en février. Et ce robot miniature, en fait, il ressemble à une gélule. Il mesure à peu près 2 cm de long et 8 mm de large. Il est couplé à un dispositif qui reste à l'extérieur de l'organisme et qui est capable d'émettre un champ électromagnétique. Et donc, une fois qu'on l'a ingéré, ce robot miniature peut être localisé dans le tube digestif avec une précision vraiment intéressante, une précision de 10 mm, donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on est capable de savoir où il se trouve instantanément. Il est capable de capter une valeur électromagnétique unique en fonction de la distance qui le sépare du dispositif qu'on a laissé à l'extérieur. Les données sont ensuite transmises à un ordinateur ou même à un téléphone également. Ça permet d'identifier avec précision donc dans quelle partie du tube digestif se situe le ralentissement intestinal qui est responsable de la constipation des patients. Le dispositif, il a pu être testé sur des porcs, parce que le tube digestif est comparable à celui des humains, et les résultats obtenus sont encourageants, même si de nombreuses étapes sont encore bien sûr nécessaires. Les auteurs espèrent pouvoir démarrer bientôt des essais cliniques chez l'homme. Ils envisagent également d'autres débouchés pour leur robot miniature à avaler, notamment dans l'incontinence fécale, qui est en clair la perte involontaire de matière fécale. On est donc dans le principe de la diarrhée, bien sûr. Le retentissement sur la qualité de vie de la personne est important, parce que cette pathologie est assez fréquente chez les personnes âgées, bien sûr. Et le robot, comme il pourrait être avalé avec de la nourriture, c'est pas quelque part quelque chose de contraignant. Une fois que les aliments et le robot ont atteint le côlon, eh bien le robot aurait la capacité de vibrer légèrement pour prévenir le patient que c'est le moment de se rendre aux toilettes. C'est assez fascinant, en fait, quelque part, d'avoir cette espèce de petite gélule qui finalement aurait des avantages assez intéressants. Voilà, bon, c'était un petit peu... On était au niveau des toilettes, je suis désolé si vous êtes en train de déjeuner en nous écoutant, mais voilà, c'est la médecine et donc du coup c'est aussi de la recherche médicale qui avance dans ce domaine-là, bien sûr. Allez, un peu de musique, ça va nous faire du bien.
Oh God,
C'était Baby Evans sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis Biotine sur l'antenne de Graphite entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On parle de plein de sujets aujourd'hui. On va parler des consommateurs de cocaïne. C'était évidemment dans l'actualité il y a quelques semaines. Mais on a là encore une information scientifique dans ce domaine-là, alors qu'une partie des consommateurs de cocaïne parviennent à se contrôler, jusqu'à 21% des utilisateurs réguliers développent une dépendance caractérisée par des cycles répétés d'intoxication excessive, de sevrage, de recherche compulsive de cette drogue. Le trouble lié à la consommation de cocaïne est d'ailleurs caractérisé par une perte de contrôle de la consommation de cocaïne, tandis qu'il existe un contrôle inhibiteur dans le cerveau sain, permettant de ne pas céder à ces sensations. Et donc, dans le cerveau dépendant, eh bien, ce contrôle inhibiteur est altéré, ce qui rend difficile, bien sûr, la résistance. En outre, ce trouble est associé à des altérations structurelles, fonctionnelles, moléculaires dans le cerveau. Et quels sont les changements biochimiques dans le cerveau qui causent cette déficience de contrôle? Eh bien, c'est la question que se sont posées des chercheurs allemands et canadiens qui ont travaillé ensemble, et leur recherche a été publiée dans la revue Frontiers in Psychiatry. Et ces recherches montrent que ce trouble chez les humains entraîne des changements dans une zone assez spécifique du cerveau qui est considérée comme important pour la conscience de soi et le contrôle inhibiteur. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une altération identifiée dans le principe, dans le mécanisme de régulation au niveau de cette zone du cerveau. C'est ce qu'ils ont pu identifier. Et donc, ces chercheurs, ils ont pu voir un petit peu comment on peut essayer de mieux comprendre le procédé qui fait que le cerveau des consommateurs de cocaïne est... interagit comme cela, et on s'est rendu compte en fait que le cerveau des consommateurs de cocaïne est plus vieux que celui des autres. C'est ce qui a été vérifié par cette équipe de chercheurs allemands et canadiens. Alors, je vais vous épargner le processus, le protocole expérimental qui leur a permis d'aboutir à ce résultat, parce que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on va être plutôt dans un aspect de, comment dire, génétique, avec la production de protéines spécifiques. Enfin bref, c'est assez particulier, assez compliqué à évoquer dans le cadre de cette émission, mais en tout cas, on a un système qui permet de pouvoir donner un âge à un cerveau, ou en tout cas une partie du corps. Il y a des caractéristiques spécifiques, notamment d'un point de vue génétique et dans d'autres domaines également, qui permet de pouvoir, comment dire, estimer l'âge d'une partie du corps. Et donc, dans le cadre du cerveau, on s'est rendu compte que le cerveau, justement, des personnes qui consommaient de la cocaïne paraissait plus vieux, plus âgé que le cerveau des autres personnes, ce qui du coup peut avoir un impact, c'est ça qu'ils ont fourni comme hypothèse, pouvait avoir un impact sur cette espèce de contrôle inhibiteur qui est altéré, et donc du coup on est dans un cercle vicieux quelque part qui fait que le cerveau n'est plus capable d'avoir ce réflexe de contrôle inhibiteur et donc se laisse un peu dépasser parce qu'il commence à vieillir, ce cerveau. C'est la découverte donc de ces chercheurs qui donne une explication à un sujet qui finalement n'avait pas été assez approfondi par le passé, mais voilà, ça a été évoqué il y a quelques semaines et ça a été paru dans différents dans différentes revues scientifiques. Je vais y arriver, pardon. Autre sujet, alors là, on va totalement quitter l'aspect purement médecine, bien sûr, avec les véhicules intelligents, les véhicules autonomes. On sait bien sûr que les rappels massifs de véhicules sont fréquents, ils sont courants pour les marques, hein, on a toujours connu ça. Ce qui l'est moins, c'est que ces rappels ne se fait pas en concession, mais qui se fait ce rappel via une mise à jour de logiciel. C'est ce qui va arriver à plus de 360 000 voitures de la gamme S, X et Y et du modèle 3 pour Tesla, et c'est aux États-Unis. C'est une mise à jour qui a été imposée par l'Agence américaine de la sécurité routière, qui implique le logiciel de conduite autonome de Tesla. Cette option est vendue à un tarif de 15 000 $ aux États-Unis, quand même, mine de rien. Et donc l'Agence américaine de la sécurité routière considère qu'en raison de dysfonctionnement, le véhicule se comporte potentiellement de façon dangereuse aux intersections. Et avec ce dispositif, la voiture peut poursuivre en ligne droite lorsqu'elle s'engage dans une sortie ou elle est censée suivre le virage. La Tesla peut également passer au feu orange sans ralentir ou bien ne pas marquer l'arrêt lorsqu'il y a un stop. Tu m'étonnes que c'est dangereux. Faites gaffe. Et donc toujours avec ce mode au niveau de la gestion de la vitesse, l'automobile n'anticipe pas forcément les changements de limitation. Il ne l'abrite pas non plus lorsque la vitesse autorisée est dépassée volontairement par le conducteur. Donc pour le moment, il faut rappeler que ce système, pourtant onéreux, reste en phase de test. Il s'agit d'un logiciel de niveau 2, c'est-à-dire que son fonctionnement n'est pas censé être totalement autonome. C'est plutôt de l'assistance à la conduite. Il n'empêche que Tesla avait rappelé lors d'une enquête sur son justement dispositif de conduite autonome par la justice américaine qu'il avait rappelé Tesla que le système ne doit pas être utilisé que si le conducteur est prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Donc la nuance, elle est importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un véhicule autonome, on est sur un véhicule à assistance, quelque part. Et la nuance est assez importante. En tout cas, l'Agence américaine de la sécurité routière avait déjà exprimé l'année dernière son inquiétude face à la part considérable des accidents qui impliquent le mode de conduite autonome. Aux États-Unis, on s'est rendu compte que ce logiciel de conduite autonome était enclenché dans le cas de plus de 250 accidents. Alors qu'Elon Musk vantait l'arrivée de ce système de conduite totalement autonome, la réalité pousse donc à la prudence. Une prudence qui se concrétise également par une réaction de la bourse, parce que le cours de Tesla a dégringolé immédiatement de près de 6% juste après cette annonce qui a été effectuée en mars, début du mois de mars. Mais voilà, du coup, Tesla est obligé de corriger son système de conduite autonome qui est jugé dangereux. Tu m'étonnes, si ça ne s'arrête pas au feu rouge ou au stop, ça devient vraiment inquiétant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faites gaffe. Faites attention, mes enfants. Qu'est-ce que je vous dis ? Allez, un peu de musique. Là, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel autonome.
Crushed for half the scene. Things aren't what they seem. Shattered heart still on a sleeve. Scarred from our deceit. Discarded card receipts. Black tank, khaki seats. Tints dark and hardly see. Parties hardly sleeps. She's suffering from fatigue. In love like every week. Every rap nigga she meets. Limousines and old cuisine. Obsessed with being seen. Phone the paps, leaving tips. I swear she'd attend the opening of a packet of crisps. I'd rarely roll to shit. I didn't like to run the risk of running into some auto-tuned twit that's seen her tits. I wish I never knew all this. Ignorance is bliss. There's too many famous names. It's a long guest list. The rumors had me pissed. I heard the pro pressed it. She name checked me in the press. That shit I don't mess with. Nah.
excuses. Our connection just ain't where it used to be. She used to make herself late for shoots, taking nudes for me. She was hiding the truth, I never knew. It was news to me. She told me that her uncle troubled her when she was six, and ever since then she's had this strange relationship with sex. Promiscuous and insecure, and this is why she drinks, so that she can project confidence, or so she thinks. The show business isn't the best place to be naive. Men in power prey on stardom, seeking starlets like me. I found her OD, barley, fentanyl and sweets. Had to drop her to a private hospital on Harley Street. Now we hardly speak. It was a cry for help, I didn't answer. I just thought she needed to slay it down a piece. And now, when I see that fake smile on the TV, I can't help but think it's us that made her like this. It's deep.
Boys Will Be Boys, c'était Kasis Dead sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique dans tous les domaines. On va parler un petit peu des animaux et notamment des papillons. Au Royaume-Uni, 80% des espèces de papillons sont en déclin. C'est ce qu'annonce l'organisation Butterfly Conservation qui vient de publier un nouveau rapport. Dans ce pays qui est pourtant connu pour sa campagne très verte et ses nombreux jardins, les papillons ont disparu de près de la moitié des lieux qu'ils fréquentaient il y a 50 ans, donc dans les années 70. Si l'Angleterre est de loin l'île britannique la plus touchée par la disparition de ces insectes pollinisateurs indispensables au fonctionnement de la nature, les autres pays n'affichent pas de bons résultats non plus. Le Pays de Galles et l'Irlande voient également s'effondrer leur population de papillons. En Écosse, en revanche, le bilan est différent. Il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition et puis il y en a d'autres qui ont proliféré. Pour les experts français de la biodiversité, eh bien les résultats de ce rapport anglais n'ont rien d'étonnant. Cependant, la France ne dispose pas de données aussi précises et aussi lointaines que celles des Britanniques. Ils ont commencé leur comptabilité dans les années 70, comme on l'a dit. En France, on l'a commencé qu'en 2006. On s'est quand même pris tard. C'est ce qu'explique Benoît Fontaine, biologiste de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle. Le constat est de toute manière aussi noir aussi noir dans notre pays, hein, d'après l'Office pour les insectes et leur environnement. Je cite, nous avons récupéré les données de présence de chacune des 300 espèces de papillons de jour dans tous les départements français du XXe siècle à aujourd'hui. L'indicateur nous démontre que depuis l'an 2000, deux espèces sur trois ont disparu d'au moins un département en France métropolitaine. Toutes les espèces françaises ont perdu au moins un département dans lequel elles étaient présentes avant l'an 2000. C'est ce qu'explique Gaëlle Sobzik-Moran, spécialiste des papillons de jour pour justement l'Office pour les insectes et leur environnement. Alors, la perte d'habitat qui est liée à l'artificialisation des territoires, l'agriculture intensive, les effets du changement climatique, eh bien tout ça fait disparaître plusieurs dizaines d'espèces en l'espace de 20 ans seulement sur plusieurs départements. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et dans une moindre mesure le Centre-Val de Loire et le Grand Est sont les plus affectés par la perte d'espèces de papillons. Pour certains de ces ces départements, 30 espèces n'ont pas été revues depuis l'an 2000, ce qui représente plus de 50% des espèces de papillons de jour qui leur étaient connues. L'ermite est l'espèce qui a perdu le plus de départements au cours des 50 dernières années. D'une manière globale, en fait, on observe une diminution de 80% de la biomasse des insectes dans le monde. Là où, en fait, on pouvait récolter 100 kilos d'insectes sur une zone donnée dans le passé, on en récolte désormais plus que 20 kilos. Donc c'est vrai que c'est une perte considérable. Mais que peuvent faire les Français pour contrer cette disparition massive des papillons qui sont des insectes pollinisateurs ? Eh bien, les citoyens peuvent s'engager en donnant leur avis, en prenant des décisions sur leur manière de consommer de façon respectueuse de la biodiversité, privilégier les aliments qui proviennent des agriculteurs respectueux de la biodiversité, agir au sein de sa ville pour un urbanisme plus vert et plus naturel, par exemple. Ok, ok, bon, on sait que pour l'instant, ça va être difficile de mettre ça à grande échelle, mais on peut également participer à l'observation pour notamment l'Office pour les insectes et leur environnement, c'est-à-dire que vous devenez observateur et quelque part vous allez comptabiliser le nombre de papillons ou d'insectes précis que vous devez calculer. Mais voilà, un déclin des papillons en France qui va provoquer une crise d'ampleur inimaginable. C'est vrai que c'est assez alarmant. Quand on mène des actions sur la biodiversité, eh bien c'est efficace. Toutes les études montrent qu'un jardin sans herbicides ni pesticides est davantage rempli de papillons et d'insectes. Donc l'action individuelle a un impact, c'est ce que précise donc ce chercheur du Muséum national d'histoire naturelle. Le déclin est vraiment énorme, d'une ampleur dont on ne se rend pas assez compte. Ce qui se passe chez les insectes dépasse sans aucune commune mesure l'ampleur de toutes les crises que nous avons connues. C'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée et donc notre survie, c'est ce que conclut Benoît Fontaine. Mais voilà, c'est effectivement une alerte assez importante. Je crois que c'est la première fois dans cette émission qu'on parle des papillons, mais ce n'est pas malheureusement la première fois qu'on parle de la baisse de la biodiversité, et c'est quelque chose qui s'accélère, on le voit là, parce qu'on parle de quelques poignées d'années avec une disparition flagrante de certaines espèces de papillons. C'est assez inquiétant, bien évidemment. Toujours au niveau des animaux, et toujours dans un registre qui n'est pas encore nécessairement réjouissant, on va revenir en 1986 avec le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui s'emballe lors d'un essai et il explose, et c'est bien sûr l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Immédiatement après l'accident et pendant plusieurs jours, il y a des grandes quantités de radioéléments volatiles qui ont été libérés. On sait que ça s'est déplacé à travers l'Europe, la Russie, jusqu'en Amérique du Nord. Peu de temps après la catastrophe, les populations qui habitaient près de la centrale ont été évacuées, ce qui laissait une grande quantité de leurs biens sur place, bien sûr, faute de temps, y compris les chiens. Les chiens sont restés. Et c'est ce qu'explique une étude qui a été publiée il y a quelques jours dans la revue Science Advances, qui s'est penchée donc sur les chiens qui habitent aux alentours de Tchernobyl depuis plus de 30 ans. Le but des chercheurs était d'évaluer les variations génétiques dues à une exposition prolongée et multigénérationnelle aux radiations. L'étude évoque notamment deux isotopes radioactifs connus pour avoir des conséquences directes sur la santé, c'est le césium-137 et l'iode-131. Mais si l'on connaît les conséquences sur de nombreux organismes vivants, il n'y avait aucune étude génétique des populations d'organismes de Tchernobyl qui n'a inclus des mammifères de grande taille comme les chiens. Et donc c'est assez intéressant, en tout cas c'est une recherche qui peut être assez intéressante parce que ça peut nous donner des informations. Et donc concrètement, pour ces recherches, l'équipe a ciblé la zone d'exclusion de Tchernobyl qui entoure la centrale dans un rayon de 30 km et qui couvre une surface totale de plus de 2600 km². Les auteurs expliquent qu'une procédure d'abattage des animaux abandonnés a été lancée peu après l'accident par le ministère ukrainien pour empêcher la propagation de contamination radioactive, mais une partie d'entre eux aurait pu échapper aux chasseurs. Et ensuite, il y a des équipes de déminage ou plus tard des touristes qui les ont soignés. Ainsi, en 2017, il y a plus de 800 chiens sauvages qui étaient recensés sur le site de la centrale ou à proximité. Et à ce moment-là, il y a trois cliniques qui offraient des soins vétérinaires aux chiens. Trois cliniques qui ont ouvert à des emplacements stratégiques pour justement démarrer un échantillonnage. une clinique directement sur le site de la centrale, une dans la ville de Tchernobyl située à 15 km et une dans une autre ville située à 45 km de la centrale. Il y a des prélèvements sanguins qui ont pu être effectués sur plus de 300 chiens. Et il y a de nombreuses analyses qui ont ensuite été effectuées par les chercheurs qui ont comparé les profils génomiques avec ceux de, d'autres chiens à travers le monde qui couvraient aussi plus de 150 races différentes et aussi des chiens qui étaient principalement d'origine européenne occidentale pour avoir des comparaisons plus intéressantes, plus fiables on va dire. Ils ont en particulier cherché à mesurer l'accumulation de la variation génétique en présence d'une contamination radioactive continue et ils ont donc pu réaliser des comparaisons entre les chiens de Tchernobyl et les autres chiens qui on va appeler les chiens témoins. C'est un processus assez difficile parce qu'il faut éliminer tous les autres facteurs d'influence pour s'assurer que la différence que l'on identifie est bien d'origine radioactive. Il est fortement possible que certaines des premières cicatrices génétiques présentes chez les chiens vivant dans la région immédiatement après l'explosion ont été perdues dans les populations moderne, c'est-à-dire que ça fait 30 ans et donc les générations de chiens se sont, succédées, beaucoup plus rapidement qu'au niveau des humains, bien sûr. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une perte d'information génétique. Malgré cela, les chercheurs ont noté 15 structures familiales complexes uniques à la population de Tchernobyl, même en les comparant avec des chiens d'Europe de l'Est qui partagent un grand nombre de caractéristiques communes. La différenciation génétique par rapport aux autres chiens de race pure et en liberté suggère que les populations de Tchernobyl ont une signature génomique unique, c'est ce que détaillent les chercheurs, c'est-à-dire qu'on peut clairement les identifier. Ils ont aussi noté un fort mélange génétique, ce qui indique que les trois populations de chiens se sont reproduites entre elles, donc dans cette surface qui comprend de la centrale jusqu'à à peu près 40-45 km autour. Ils se sont tous mélangés et ça complique d'autant plus l'attribution de changements à une contamination radioactive. L'analyse de la parenté montre que les relations génétiques entre les chiens reproducteurs libres à Tchernobyl sont complexes avec de nombreux cas de reproduction sur plusieurs générations, ce qui rend difficile bien sûr de déduire la parenté au-delà du premier degré. Donc, conclusion, on a mené une étude sur les chiens vivants, les chiens errants autour de Tchernobyl. On s'est rendu compte qu'ils ont une carte d'identité génétique quelque part un peu identifiée, un peu spécifique, mais que du coup, les années passant, il y a eu une reproduction qui s'est faite entre eux, qui s'est faite également avec d'autres chiens errants qui étaient aussi au niveau du voisinage. Je veux dire que ça a un petit peu circulé tout ça, et que ce marquage génétique est moins clairement identifié. Mais ça prouve là encore, bien sûr, qu'il y a eu un impact d'un point de vue génétique. Et ils ont donc analysé le génome de à peu près 300 chiens qui vivaient près du site de la centrale de Tchernobyl. Et ils ont donc constaté des différences notables avec d'autres chiens à travers le monde. Voilà la conclusion de cet article assez surprenant, on va dire, de cette étude. On a travaillé donc sur des chiens de Tchernobyl. C'est bon à savoir. On écoute un dernier titre avant de nous dire au revoir sur l'antenne de Graphite. Pardon.
It's no fun here. There's no sun here, nothing has grown. Where do we go to get away? How do we know when to stay? Celebrate. yourself and he. Who would have known? We're overrun here. Flowers have grown. It's beautiful today.
Curtis Harding sur l'antenne de Graphite. Il nous chantait With You, sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On avait un petit peu feuilleté la revue de presse de l'actualité scientifique avec pas mal de sujets aujourd'hui. C'est le but de cette émission, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier, de comprendre un petit peu quelles sont les découvertes scientifiques dans les différents domaines aujourd'hui. Là, on a vraiment eu un panel assez important et puis un constat également sur les impacts du réchauffement climatique. C'est de plus en plus illustré par des découvertes de plus en plus inquiétantes, là notamment dans le cas des papillons, bien sûr. On se retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite à 12h, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien évidemment. D'ici là, vous restez bien sûr fidèles à toutes les émissions de Graphite, et puis on se retrouve donc samedi prochain, et on continue à feuilleter l'actualité scientifique, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve samedi prochain. Bonne semaine à vous. À bientôt. Au revoir.